carnet de campagne. Bonjour, nous poursuivons notre collecte, notre glanage, je pense toujours à Agnès Varda en disant ça, d'initiatives qui participent à une société en transformation dans le département de Savoie. Parfois, ces initiatives prennent corps dans un commerce, comme c'est le cas avec la librairie des Bauges à Albertville. Celle-ci se porte bien, contrairement à certaines librairies indépendantes qui ont bien des difficultés, parce qu'elle s'inscrit d'abord dans la vie locale depuis 1953, mais surtout parce qu'elle a épousé les mutations de notre temps. Rénovée en 2018, elle vient d'ouvrir son garage. Le nom peut prêter à confusion, même si on peut y réparer son vélo, car ce garage est d'abord un lieu culturel alternatif qui programme des conférences, des concerts et des expositions. Il héberge également une AMAP et profite de produits locaux, alors là, vraiment très proches, pour servir des assiettes bien garnies et bio, si possible. Yves et Marc, nos correspondants, se font les porte-parole de ce lieu pour les carnets, qu'ils en soient remerciés. Ici, librairiedesbauges.fr. Gros recyclage en vue aujourd'hui au nom de la planète et au nom du bon sens du tout recyclable. Les skis en fin de vie, 2500 tonnes de déchets annuels que l'association ArskiTech aimerait éviter en recyclant cette matière. Explication avec Christine Delors et puis une visite chez Marie-Agnès Glorieux au nom heureux, à l'image de la reconstruction des personnes qu'elle propose par la pratique du chant. Son association s'appelle La Voix en cœur à cœur.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Christine Delors, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un des quatre membres piliers de l'association ArskiTech.
Oui.
Il n'y a pas de jeu de mots, simplement c'est la création d'une filière de seconde vie des skis. Et on est ravis d'annoncer la création de votre association et de l'ouverture de cette filière de recyclage parce qu'elle est inédite et j'espère qu'elle va donner des idées à d'autres lieux de haute montagne puisqu'il y a un gâchis de skis. 800 000 skis arrivent en France chaque année sur le marché et ils sont dits révoqués, c'est-à-dire démodés au bout de 2 ans.
Oui, c'est ça. Au bout de 2 ans, enfin, le principal du marché, c'est de la location. Et au bout de 2 à 3 saisons, on estime que les skis ne sont plus bons pour être utilisés sur les pistes. Et donc, ils sont envoyés en déchetterie.
Oui. Alors, déchetterie pour certains. Et puis, pour d'autres, incinérés. Et le chiffre, c'est 2500 tonnes de skis qui sont incinérés chaque année.
Voilà, c'est ça. 800 000 skis, ça correspond à peu près à 2500 tonnes. Donc, il y a une partie de ces skis qui partent dans d'autres pays. Mais effectivement, il y en a une grande partie qui est incinérée parce qu'on ne sait pas recycler cette matière parce que les skis sont des produits composites.
Mmh.
Et donc, on les broie et ensuite on les incinère avec au mieux de la valorisation énergétique. Et
vous avez un bureau d'études pour imaginer l'utilisation transformée de ces skis?
Alors, bureau d'études, c'est peut-être un grand mot, mais effectivement, on est 2 ingénieurs, puis on a un designer aussi, et on travaille sur les nouveaux usages qui peuvent être faits avec ces skis. Donc, en changeant de regard sur ce déchet, et en se disant, bon, c'est pas simplement un produit pour aller faire de la glisse sur la neige, c'est aussi une planche qui est extrêmement souple, qui est imputrescible, qui a plein d'excellentes caractéristiques mécaniques, et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut en faire?
Et alors, je vous pose la question, que peut-on en faire?
Nous, on développe 2 branches principalement. Donc, une branche dans le mobilier. Donc, on en fait des chaises, des tabourets, des tables atypiques. Et puis, l'autre branche qui est également très intéressante, c'est l'architecture. Donc, pour l'instant, on est sur de l'architecture légère. On construit des structures de type treillis.
Mmh.
Qui sont extrêmement résilientes et qui permettent également d'absorber l'hétérogénéité du gisement. Et on travaille également sur des applications dans le second œuvre. Donc, par exemple, du bardage, barrières, etc.
Ouais. Ce qui est une bonne idée, mais voilà, l'innovation est là. Ensuite, il faut gagner une homologation, parce que dans la construction, le matériau ski est pas encore utilisé.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire que les structures qu'on construit, à partir du moment où on veut accueillir du public, on doit pouvoir les homologuer. Et donc ça, c'est un des challenges et on veut aller plus loin, on veut vraiment aller vers la reconnaissance, la certification du ski en tant que matériau de construction.
Et vous avez déjà réalisé des prototypes?
Oui, on a plusieurs prototypes, aussi bien pour le mobilier que pour les structures architecturales. On a notamment plusieurs dômes géodésiques de différentes tailles, jusqu'à 10 mètres de diamètre, qu'on a déjà monté, soit qu'on a vendu, soit qu'on a loué pour des événements, des forums, des festivals. Voilà.
Pour l'instant, vous êtes dans un atelier partagé, vous cherchez des locaux pour développer l'activité.
Voilà, on cherche des locaux notamment pour pouvoir stocker et rendre disponible cette matière. Parce que notre ambition, c'est vraiment d'être cet intermédiaire entre la déchetterie et puis tous les usagers du ski en tant que matériau de construction. Donc on ne sera pas les seuls, on sera d'une certaine manière notre propre client, mais on pense qu'il y aura des architectes, des maîtres d'œuvre, des designers qui seront également intéressés par cette matière. Et pour ça, il faut que nous, on puisse donc récupérer cette matière, la caractériser, la trier et la stocker, la rendre accessible.
Ouais. Et pour développer, il faut des fonds, et pas uniquement des skis de fond d'ailleurs.
Exactement, il nous faut également des fonds, des ressources, et donc on est également à la recherche de subventions, de dons, de personnes qui sont intéressées pour investir dans cette start-up innovante de Savoie. Voilà.
Ouais. Et il faudrait vous mettre en lien avec les autres massifs montagneux, parce que là vous avez une surface de travail inimaginable.
Exactement, c'est un projet qui a pour ambition de s'étendre clairement sur les Alpes et au-delà des frontières françaises. Et on a également été contacté par les Pyrénées.
Bah oui.
Ils ont eu l'information sur notre projet et qui nous disaient, mais nous aussi, on a plein de skis, venez dans les Pyrénées pour en faire quelque chose.
Bon, voilà. Très bonne idée. Arskitech.com pour l'adresse. Et ça, c'est complètement innovant. Merci, Christine.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Encore une petite histoire du local qui bouge bien face aux défis climatiques, écologiques et sociaux qui nous attendent dans le Bugey savoyard. La commune de Yenne, Y-E-2-N-E, presque 3000 habitants, risquait de s'endormir. Fort heureusement, quelques personnes bien intentionnées imaginèrent fin 2014 de mettre la commune à l'épreuve du changement en relocalisant l'alimentation par l'ouverture d'une épicerie bio de grande proximité et puis en participant à la réduction des déchets par le recyclage à l'aide d'une ressourcerie. Notre correspondant qui nous adresse un coup de chapeau, merci monsieur, admet que les activités ont fait rapidement des adeptes et ont bousculé les habitudes. L'association remuante de Yenne s'appelle la Fourmilienne et les agitateurs, agitatrices s'appellent les fourmis, donc les fourmis Yenne. C'était voulu, voilà, un peu tiré par la patte. Fourmi, car on sait bien que c'est en commençant petit que l'on arrive à faire les choses en grand. Bref, tout cela pour dire que les fourmis ont ouvert aussi un jardin partagé, un compostage collectif, des échanges de savoir-faire, des ateliers cuisine et des ateliers d'éveil pour les plus petits. Et puis j'ai oublié quand même de préciser que notre correspondant s'appelle justement Monsieur Chapeau. Fourmilienne.fr pour l'adresse. Marie-Agnès Glorieux, bonjour.
Bonjour Philippe.
Votre parcours est étonnant. Vous, infirmière en Normandie, à Versailles, vous avez travaillé avec des sortants de prison et puis arrivé en Haute-Savoie. Et vous, pardon de vous dire ça, Haute-Savoie déjà, vous changez de voix ?
Non, je garde ma voix, je reste authentique et en fait c'est une belle aventure que j'ai vécue auprès des personnes en difficulté et pas toujours bien équipé pour vivre dans notre vie moderne, je dirais. En fait, on a utilisé le potentiel de la voix pour pouvoir s'exprimer dans la vie de tous les jours. Et donc, j'ai des belles aventures, des belles histoires, des belles rencontres qui me sont arrivées. Et il y a 5 ans, avec l'impulsion de François-René Duchâble, on a décidé de créer l'association La Voix en Cœur à Cœur.
Ça veut dire que le chant peut être un outil de reconstruction de la personne ?
Ah, tout à fait. Le chant est un outil de reconstruction et c'est capital parce que c'est la clé de la communication et je pense même que c'est ce qui nous permet d'accéder au bonheur.
Et donc l'association La Voix en Cœur à Cœur est un groupe vocal associatif que vous créez avec des personnes qui sont fragilisées, isolées, victimes des aléas de la vie, comme vous le signalez, et qui se produisent en spectacle ensuite.
C'est ça. C'est un peu la singularité de ce groupe. C'est de mettre des personnes, entre guillemets, en difficulté, parce qu'en fait on s'aperçoit que quand on travaille sa voix, on apprend à utiliser son potentiel corporel, on fait des exercices de respiration, de vocalisation, et bien les gens prennent confiance en eux Et puis, on arrive à les mettre sur scène. Alors, l'objectif du groupe, c'est de faire 10 scènes par an, ce qui n'est pas rien, hein, diverses et variées. C'est-à-dire qu'on peut aller dans les maisons de retraite, dans les centres de loisirs, les hôtels, toutes sortes d'endroits, les municipalités. Et tous les ans, on fait, au profit de l'avoir à cœur, 2 concerts par an. Donc un à l'église de Villaz, qui cette année aura lieu le dimanche 24 novembre à 15h. Et puis on en fera un également à la salle des fêtes des Ollières le samedi 12 octobre à 20h30, où là on se produit avec des artistes reconnus. Hein, donc on a l'habitude de travailler avec Chris Florian, qui est un chanteur ténor d'opérette, d'opéra et de variété française et italienne. On a également la chanteuse savoyarde Paul David avec son pianiste Stefano Marchitelli et puis toutes sortes d'artistes reconnus. Et du coup, ça, c'est fait pour valoriser les personnes, leur donner confiance et ça marche.
Marie-Agnès, c'est de l'art-thérapie ?
Alors, on peut pas dire que ce soit de l'art-thérapie, parce que l'art-thérapie, telle qu'elle est pratiquée en ce moment, elle se pratique à l'intérieur d'un centre hospitalier, clos. Et moi, avec notre musicothérapeute, qui est également Christophe Rion, je suis pour ouvrir sur l'extérieur, faire vivre les gens dans la cité et leur faire endosser un rôle de citoyen responsable, comme on dit aujourd'hui, et ça fonctionne.
Et à l'heure actuelle, le groupe vocal est composé de combien de personnes et quelles sont leurs provenances ?
À l'heure actuelle, le groupe vocal, il est composé de 25 à 30 personnes et leur provenance, elle est diverse et variée. Il y a des personnes qui viennent de l'hôpital, qui ont un passé en psychiatrie, puisque j'ai travaillé en santé mentale, mais pas seulement. J'ai des grands-mères isolées qui ont leurs enfants qui sont partis vivre à l'étranger, ou des gens touchés par la maladie ou le handicap de près ou de loin, des parents, toutes sortes de personnes, puis ça fonctionne un peu de bouche à oreille, et toute personne qui a eu une difficulté dans la vie, hein, c'est-à-dire presque tout le monde.
Hein. Alors, il ne reste plus qu'une chose, c'est un site internet.
Il est en construction.
Bon. Alors on attend.
Non,
parce pour l'instant, on a l'adresse électronique, hein, la voix à cœur @orange.fr. Ça, vous allez la trouver pour entrer en contact avec Marie-Agnès et connaître le développement de cette association qui est reconnue d'utilité publique aujourd'hui. Et puis dès qu'on aura le site, vous nous avertirez, on le mettra en ligne.
Merci.
Merci. Bonne fin de journée.
Au revoir.
On a reçu un courrier de Céline, que je remercie au passage. Céline nous avait présenté, le 17 septembre de l'année dernière, c'est très précis, le restaurant qu'elle a créé à Poitiers. Alors pourquoi nous avions parlé de ce restaurant ? Il s'appelle Le Bonheur est dans le Pré, parce que la cuisine est innovante, créative, faite sur place, à l'aide de produits bio et locaux. Elle utilise la monnaie locale, mais elle se partage aussi avec un espace culturel et un espace de lien social qui organise des soirées à thème hebdomadaire. Et le souci, c'est que, nous écrit Céline, il y a une pénurie de cuisiniers en France et malgré mes recherches assidues depuis plusieurs mois pour anticiper, je ne trouve pas. Donc voilà, offre d'emploi. Elle recrute un cuisinier, une cuisinière formée, diplômée, si possible 2 ans d'expérience, intéressée par la cuisine biologique à tendance végétarienne. Vous allez trouver l'adresse électronique si vous voulez entrer en relation avec Céline. C'est à nos pages d'émission sur la page Facebook des carnets de campagne et aussi sur la page des carnets sur franceinter.fr. Le site, c'est lebonheuretdanslethé.fr si vous voulez avoir des détails sur ce lieu, pas tout à fait comme les autres, en plein cœur de Poitiers. Avant de nous séparer, je rappelle que la semaine prochaine, nous serons en Haute-Savoie avant d'attaquer le Calvados, la Seine-Maritime, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. La Savoie, Valmorel, Nicolas Stoufflet.